Radio
Okapi.
Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Bienvenue dans cette deuxième partie d'Okapi Service, les magazines de la vie au quotidien. Femmes enceintes, conduites à observer pour un accouchement à moindre risque. Nous en parlons dans cette deuxième partie d'Okapi Service avec Dr Guy Mukumpuri. Il est chef de division chargé de la maternité à moindre risque. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081 890 63 94. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez-nous vos questions, témoignages et suggestions au numéro 081 711 5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente ces numéros. Jean-Marc Matouaki réalise et coordonne cette émission. Priscilla Kabouya est à la réalisation et Polydor Basunga s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une bonne condition d'écoute de notre magazine de la vie au quotidien. 80% des cas, dans 80% des cas, la mortalité maternelle et infantile a des causes directes selon l'OMS. Les spécialistes en santé publique citent par exemple l'hémorragie grave principalement après l'accouchement, les infections de suite d'un avortement spontané ou pratiqué dans de mauvaises conditions, l'hypertension artérielle pendant la grossesse qui sont des quelques facteurs qui peuvent entraîner des conséquences ou des complications pendant la grossesse ou lors de l'accouchement. Quelle conduite observer en période de grossesse pour avoir un accouchement à moindre risque? Nous en parlons avec notre invité qui est au téléphone, Dr Guy Mukumpuri. Vous êtes spécialiste en accouchement à moindre risque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord les concepts accouchement à moindre risque? Qu'est-ce que cela veut dire?
Ok. Bonjour d'abord.
Bonjour docteur.
Oui, je tiens d'abord à préciser que vous m'appelez moi comme un individu Mukumpuri, donc je parle comme expert à la matière.
Oui.
Je ne parle pas au nom de mon organisation parce que pour l'instant, j'ai des petits pépins avec les autorités de mon organisation qui m'ont infligé une suspension que je ne comprends pas et je suis chez moi, donc je parle en tant qu'expert à la matière.
D'accord. Merci.
Voilà. Merci beaucoup. La maternité à moindre risque. Vous savez que, avant que je donne cette définition, je voudrais expliquer que, vous savez, en toute chose, le risque zéro n'existe jamais. C'est pourquoi nous parlons de moindre risque. Moindre risque par rapport au décès, moindre risque par rapport aux complications qui peuvent arriver, étant donné que le risque zéro n'existe pas parce que Dieu est souverain et que c'est lui qui a instauré la mort que nous connaissons comme chrétiens dans tout ce qu'on s'est dit par rapport aux raisons des décès, aux raisons de la mort. Mais les rôles de l'expert que nous sommes, les rôles des personnels du soin et tout ce monde qui peuvent contribuer, c'est de réduire de plus en plus pour que cette femme qui prend la décision de prendre une grossesse ne puisse pas mourir parce qu'elle veut perpétrer l'espèce humaine. Et pour cela, nous devons mettre autour d'elle toutes les conditions possibles qui doivent l'aider à amener son accouchement à bon escient pour que, qu'il n'y ait pas de décès, qu'il n'y ait pas de complications, qu'il n'y ait pas tout ce que nous connaissons dans le sens du mal. Et c'est pourquoi cette organisation, cette division qu'on appelle cette composante de la santé de la reproduction sur les nerfs qu'on appelle maternité à moindre risque, c'est cette composante qui veut mettre toutes les approches possibles autour de la période de la grossesse jusqu'aux 42 jours après l'accouchement pour que dans cette période de la définition des décès, la femme ne puisse pas avoir beaucoup plus de risques qui peuvent entraver sa vie, qui peuvent entraver le futur enfant qui va venir, Tout cela par rapport à sa santé, que sa grossesse ne soit pas une raison ou une cause qui peuvent entraver sa vie parce qu'elle a pris la décision de mettre au monde. Voilà.
Docteur, est-ce que être en état de grossesse est un état critique pour la femme ou c'est tout à fait normal, ça entre dans la physiologie du fonctionnement de la femme?
Oui. Et tout ce que nous disons, que la grossesse est un fait normal. Normalement, quand il n'y a pas de problème autour de tout ce qu'il faut par rapport à la grossesse, c'est un état normal par rapport à la position de la femme d'avoir une grossesse et de la mener à bon escient jusqu'à l'accouchement. Mais il faut se dire que la grossesse elle-même comme un état peut amener aussi d'autres modifications physiologiques du fonctionnement de la femme pendant cette période. Mais ça ne doit pas être que cette modification scientifique doit être un danger pour la vie de la femme. Donc, nous, en tant que maternité à moindre risque, notre rôle, c'est de mettre un environnement, n'est-ce pas? Et un environnement qui fait que cette femme-là, dans son environnement de cette période, de cette grossesse, nous puissions lui surveiller sa grossesse jusqu'à l'accouchement et dans la période de ces ponts de 42 jours dont je vous dis, pour que tout se passe normalement, sans risque pour que l'enfant. Parce que c'est une période. Il y a des risques, il y a beaucoup de complications qui peuvent arriver par rapport à ça, mais notre rôle, c'est de minimiser ces risques-là pour que tout se passe normalement bien.
Docteur Guy Moukoumpouri, nous rappelons que vous êtes spécialiste en maternité à moindre risque. Dites-nous quelle conduite observer dans les premiers trimestres de la grossesse. On est au courant qu'on est enceinte. Quelle conduite est tenir pendant les premiers trimestres?
Très bien. Voilà. Ça, c'est la première partie de la grossesse. Vous savez que pendant les premiers trimestres de la grossesse, la première des choses que doit faire une femme, c'est d'abord de consulter les services de consultation prénatale qui vont l'aider dans cette période-là, du premier trimestre, de confirmer ou d'infirmer sa grossesse, n'est-ce pas? Pour dire que réellement, vous êtes grosse et dans les milieux spécialisés ou dans en ville, par exemple, parce même à l'intérieur, mais dans des milieux où il y a de belles équipements, des échographies, autres, on peut même lui dire, voilà, tu es grosse, cette grossesse est mieux installée dans la partie qu'il faut, et tout, la situation est bonne. Maintenant qu'on a confirmé la grossesse, on donne une ligne de conduite par rapport à la femme. Cette ligne de conduite, c'est pour dire à la femme est que pendant cette période, on lui explique un peu quelle sera la physiologie de la grossesse pendant tout ce temps qu'il sera dans la grossesse, combien de temps il doit visiter le prestataire de soins, combien de temps pendant que tu as cette grossesse, on peut même donner des conseils par rapport à son alimentation. On peut donner à sa nutrition plutôt, on peut donner des conseils par rapport même aux vêtements, la façon de se comporter, autres, même dans les travaux, quels sont les genres de travaux que tu peux faire par rapport à cette grossesse que nous avons vue, qui est mieux installée ou bien n'est pas bien installée, mais par rapport aux travaux, si tu fais par exemple les travaux lourds, tu peux la perdre et autres. Même un comportement, même par rapport à l'éducation sexuelle de la femme pendant cette période de la grossesse, tout cela s'est fait au premier contact. Au premier trimestre, parce que c'est dans le premier trimestre, c'est la période dans laquelle, dès que la grossesse est confirmée, on peut se rassurer que cette grossesse va évoluer ou pas. Parce qu'avant le premier trimestre, on a toujours dit, nous n'avons pas de méthode par rapport aux drogues pour protéger cette grossesse. Et que s'il y a une menace, cette grossesse risque de partir de manière physiologique et normale. Et de l'autre côté, dès qu'elle est confirmée au fin premier trimestre, vous l'avez confirmée, et à ce moment-là, vous la suivez, vous la surveillez normalement jusqu'à la période de l'accouchement. Et vous lui donnez encore des conseils par rapport à la période après accouchement. Voilà.
Donc docteur, le premier trimestre, c'est une période sensible parce que le corps de la femme doit s'adapter à ces nouveaux états, au fait, à ces nouveaux états de conception.
Exactement. Parce que nous, je vous ai dit, c'est une période délicate. Parce que, je t'ai dit tantôt, et que s'il y a des menaces, très souvent, tu vois, les gynécologues, ce qu'ils le font, c'est quoi? À ce moment-là, quand il y a des menaces d'avortement et tout, souvent, on peut donner des drogues, on peut tocoliser la grossesse et tout ça pour éviter de perdre cette grossesse. Mais dans cette période-là, des premiers trimestres inférieurs, cette période-là, très souvent, si une grossesse est décidée de partir, elle va partir de manière physiologique. Donc les mesures de contention dans lesquelles pour protéger, souvent n'ont pas les mesures de drogue, n'ont pas beaucoup d'effet dans cette période. C'est pourquoi cette période-là, elle est vraiment délicate et que quand les choses sont confirmer une grossesse, à ce moment-là, vous donnez les conseils qu'il faut à la femme, comment maintenir sa grossesse et comment évoluer avec sa grossesse jusqu'à l'issue normale.
Quelle conduite observer pour un accouchement à moindre risque? Nous en parlons dans cette deuxième partie d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94. Je le rappelle, 081-890-63-94. Nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Par SMS, envoyez-nous vos questions, témoignages et suggestions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service dans le courriel dénommé service@radiokapi.net.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Docteur Guy, dites-nous, est-ce que ces orientations, ces conseils se donnent au cas par cas ou ce sont des conseils à caractère général qu'on prodigue à toutes les femmes qui tombent enceintes?
Ok, merci beaucoup pour la question. C'est les deux. Les deux, nous les comptons parce que de manière générale, ce sont les normes du pays qui disent que pour une femme qui tombe enceinte, dans la période avant l'accouchement, il doit bénéficier de autant de visites. Par exemple, chez nous, nous parlons de 4 visites jusqu'à l'accouchement. La femme doit bénéficier de 4 visites de consultation prénatale. Mais je sais que l'OMS est en train de nous demander que nous passions à 8 visites. Mais compte tenu de circonstances, des rapportages de données et autres, nous sommes en train de voir comment, à temps opportun, intégrer cette nouvelle approche, mais nous sommes encore restés au niveau de cette approche de 4. Ça, c'est de manière générale pour toute grossesse. Mais, il existe maintenant des grossesses, soit à problème, ou des grossesses qui doivent bénéficier des conseils de manière spécifique par rapport à l'état de la grossesse. À cela, vous allez voir, par exemple, que les contacts peuvent augmenter, n'est-ce pas? Les contacts avec le personnel de soins peuvent augmenter. C'est d'ailleurs pour ça que tu parles, que nous avons parlé dans son temps de, nous avons parlé de ce que nous appelons la CPN, consultation prénatale recentrée.
Okay.
Et la consultation prénatale recentrée veut dire la consultation prénatale focalisée sur la personne. C'est-à-dire focalisée par rapport au problème de la femme, au problème spécifique de la femme, vous lui donnez les conseils, le traitement, tout ce qu'il faut par rapport à son état. De cette sorte que vous verrez que, par exemple, une femme enceinte diabétique sera prise en charge, sa prise en charge sera spécifique par rapport à ce problème de la santé.
Oui.
Et la femme enceinte qui est, par exemple, hypertendue, avec des antécédents de l'hypertension, sa prise en charge sera aussi prise de manière spécifique par rapport à son état. Ainsi de suite. Mais ceux qui évoluent normalement bien, qui n'ont pas de problème, vous verrez que ceux-là seront mis dans le tronc commun par rapport à toutes les visites, comme ça a été, comme cela est prévu normalement. Voilà.
Docteur Guy Moukoumpouri, dans cette émission, nous donnons la parole aux auditeurs. Donc, nous allons cette fois-ci partir au standard pour donner la parole au professeur Lumeya Fidèle. Il est à Kinshasa, à qui nous disons bonjour.
Bonjour, mon frère.
Bienvenue dans Okapi Service. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce niveau de l'échange?
Oui, je voudrais souligner l'aspect traditionnel, parce que l'aspect médical occidental, le docteur qui est mieux placé l'a déjà souligné. Mais je voudrais ajouter ici comment la communauté traditionnelle dans nos villages ont pris soin de la femme enceinte, non pas seulement la femme enceinte, mais aussi l'enfant. Parce que dans la communauté traditionnelle, surtout de là où je viens, dans le Kwilu, on avait peur que ce qui touche à la femme va toucher aussi l'enfant. Par exemple, les danses traditionnelles où on bouge trop le bas-ventre étaient interdites. Parce qu'on se disait, à trop bouger, l'enfant risque d'être touché. Donc, la femme sage et la communauté qui donnait conseil à la dame enceinte prenaient aussi soin de prévenir ce qui pourrait arriver à l'enfant qui va naître. Donc, les danses, les comportements violents, par exemple, la danse avec beaucoup trop de contournements était interdite pendant le temps de la grossesse. L'autre comportement, c'était aussi le comportement alimentaire. Il y avait des nourritures, par exemple certains poissons et comme aussi certains aliments comme le courge ou bien trop de piments, la femme enceinte devait les éviter parce qu'on disait ça va créer un toxique pour l'enfant qui va naître. Donc tout ce qui il y avait cette conscience là que l'enfant et sa mère et font un. Donc cette unité-là allait aussi de pair avec dicter aussi le comportement de la maman qui attend famille. J'ai parlé de cela, mais aussi le mari était éduqué à ne pas frapper, exercer de la violence physique sur sa femme.
À l'endroit de la femme, oui.
Voilà, parce que tout ce qui arrive à la maman arrive aussi au bébé qui va venir. Et le comportement était très, très suivi. Parce qu'aujourd'hui, la science moderne, la neurologie, appuie la science traditionnelle africaine qui était déjà connue sous les aspects traumatiques. Je crois que le docteur va mentionner cela. Nous parlons des traumas intergénérationnels. Donc, tout ce qui atteint la maman atteint aussi le bébé du côté comportement. Donc, le bébé sent les violences physiques et verbales que subissent la maman. Et le bébé naît et grandit avec les traumas hérités de parents. Je crois que je peux m'arrêter là pour
oui,
le moment.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Lumeya. Merci pour votre contribution. Docteur Guy Mukumpuri aura le temps de donner son opinion par rapport à votre contribution à ces niveaux du débat. Allons cette fois-ci à Bounia pour donner la parole à monsieur Héritier, à qui nous disons bonjour.
Monsieur le docteur.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Héritier?
Je pose une question. La première est de savoir la femme enceinte, quelle est l'éducation psychologique que la femme enceinte a besoin pour pouvoir permettre que la femme ne soit pas affectée. La deuxième question est de savoir le jeu. Quel est le jeu auquel la femme enceinte est appelée à exercer?
Merci beaucoup, monsieur Ritiel. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bounia que vous intervenez. Docteur Guy, comment répondez-vous au professeur fidèle Ayou Lumeya? Il a fait allusion à l'éducation traditionnelle, au fait, concernant la femme enceinte.
Merci beaucoup pour la question. Bon, vous savez que les problèmes traditionnels ont toujours aussi une explication scientifique. Très souvent, le mal, c'est quoi? C'est cette dissociation qui parle de la médecine traditionnelle et médecine moderne. Okay. Mais je pense que tout a été fondé sur la parole, tout est fondé sur la psychologie, tout est fondé sur les plans par rapport à la drogue et autres. Mais comprends bien le monde de ce qu'elle est. On a voulu dissocier pour parler des traditionnels, pour parler de ceci, cela. Au fait, tout c'est la médecine, mais c'est peut-être la pharmacopée ou la façon de présenter les choses qui se dissocient.
Oui, et puis dans tout ça aussi, il y a la notion de la complémentarité.
Traditionnelle elle-même, la médecine moderne elle-même, vous allez voir dans les consultations prénatales, il y a une grande composante qu'on appelle éducation sanitaire. Ouais, à l'époque même, on parlait de l'information sanitaire. C'est cette partie dans laquelle les aspects dont les professeurs, l'éminent professeur Lomeyal a dit, sont souvent pris en compte dans ce sens-là. Je voulais dire ceci. D'emblée, au début, quand je vous ai parlé, je vous ai dit qu'au premier trimestre, dès qu'une femme est enceinte et que la grossesse est confirmée, ce n'est qu'après, dans sa prise en charge, on va lui donner des conseils sur les drogues, on va lui donner des conseils sur les comportements adoptés. Et dans ces comportements adoptés, vous verrez que dans lesquels on peut demander à la femme d'éviter beaucoup plus de cas de traumatisme. On peut lui éviter des travaux lourds qui peuvent faire qu'il puisse perdre la grossesse. Dans les travaux lourds, comme on a dit, il y a aussi la danse dont il a parlé.
Oui.
Une femme enceinte ne doit pas tourner la hanche comme une femme qui n'est pas enceinte, par exemple.
Oui.
Donc, ils doivent mesurer, voir, dans mon état ici, parce que c'est une évolution normale. Mais quand toi-même, tu lui donnes des aspects traumatiques dans lesquels tu peux provoquer même les choses, des inattendus, comme on a toujours dit, par rapport à l'évolution de la grossesse. Donc, je n'en disconviens pas. Je crois que à l'époque, les ancêtres à leur époque, je crois que la seule façon pour eux d'exprimer les choses, c'était cette façon-là de faire par rapport à la femme. Et dans le, la nutrition, je vous ai parlé aussi de la nutrition de la femme.
Oui.
C'est pour dire que il y a des nutritions, vous savez qu'il y a, des, il y a certaines allergies qui peuvent avoir d'origine nutritionnelle.
Oui.
Et peut-être que les ancêtres à l'époque, il pouvait peut-être ne pas dire, dit bon, ben, pour une femme qui est enceinte, par rapport à tel repas, par rapport lié, les repas sont aussi liés par rapport aux coutumes aussi, hein. On dit par rapport à ces repas, par exemple, dans notre coutume, nous, la femme enceinte ne mange pas le serpent, ne mange pas ceci, ne mange pas cela. Très souvent, dans 70% des cas ou 90% des cas, peuvent être des choses vraies dans lesquelles, quand vous ne respectez pas, et ça peut amener des ennuis par rapport à la femme.
Oui.
Donc, de ce côté-là, c'est vraiment de la psychologie qui est déjà la femme qui a grandi dans cet environnement-là et qui connaît ces histoires-là, même si vous venez dans l'état moderne pour dire non, non, c'était ceci, c'était une façon de vous tromper, quand sa psychologie est déjà atteinte et vous forcez les choses, vous pouvez avoir parfois des conséquences néfastes par rapport à cela. Et nous, ce que nous faisons dans la médecine moderne, dans les CPN, dans la partie infosanitaire, l'éducation sanitaire qu'on donne à la femme, c'est d'améliorer cette façon de faire, d'aider la femme dans le sens de faire les choses pour son bien à elle, afin que les mesures concernant ne puissent pas venir pour venir perturber. Je suis tout à fait d'accord par rapport à cela. Et d'ailleurs, regarde même dans la médecine moderne, dans la CPN, nous avons toute une composante qu'on appelle la composante communautaire par rapport à la femme. Comment la communauté, l'environnement de la femme doit aussi accompagner la femme pour bien garder sa grossesse et pour une issue favorable de sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Notamment, c'est comme ça que tu vois qu'on organise les communautés en ce sens de reconnaître les différents signes de danger pendant la période de la grossesse chez la femme, afin de lui permettre de prendre à temps des décisions utiles pour sauver cette grossesse en cas de menace. Et vous verrez que c'est dans cette même période, dans la composante, dans la composante communautaire, qu'on implique l'homme, qu'on donne à la femme un certain nombre de décisions aussi pour que la femme puisse avoir aussi même ce qu'on appelle l'autonomie économique, pour que, tu vois, toutes ces femmes qui sont dépendantes des hommes par rapport à la prise de décision, ça, je l'ai dit avec réserve, et très souvent quand un danger arrive et qu'on doit attendre l'homme qui doit prendre la décision,
arrive,
et rappelez-vous que si cet homme a besoin de se débarrasser, je crois qu'il mettra beaucoup d'hésitation par rapport à cela. C'est comme ça que dans cette composante dans laquelle on aide aussi la femme à faire des petites économies pour que justement, au moment de prendre la décision pour consulter les services qu'il faut ou d'aller vers les services qu'il faut pour l'accouchement ou pour les consultations, la femme puisse être un peu autonome. Donc, la médecine moderne, comme a dit le professeur, n'a pas laissé de côté les aspects culturels, les aspects communautaires. Donc, il les prend, mais il essaye de les modifier dans le sens de meilleur pour que nous puissions aller de l'avant, pour que nous puissions tous avoir les meilleurs résultats. Voilà.
Quelle conduite observer pour un accouchement à moindre coût, à moindre risque, pardon? Nous en parlons avec Dr Guy Mukumpuri. Il est spécialiste en maternité à moindre risque. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94 par SMS. Nous attendons vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de poster vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans les courriels dénommés service@radiokapi.net.
Okapi Retro fait revivre le tube des années 60, 70 et 80.
Balingi babina musique Africa.
Africa.
Rumba, pop, disco, slow. Des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Lundi et mardi à partir de 23h et le dimanche à 21h.
Oui, docteur Guy Mukumpuri, dites-nous, est-ce que au premier trimestre, il y a des vaccins obligatoires que la femme doit prendre pour protéger l'évolution de sa grossesse?
Oui, oui. Mais il y avait d'abord un aspect de question que notre ami héritier a posé.
Ah oui, oui, héritier de Bounia, oui.
Mais pas héritier de Bounia. Je n'ai pas bien saisi sa question.
Non,
ça, ça, je ne sais pas.
Oui, au fait.
Il a parlé de l'éducation psychologique de la femme enceinte.
Psychologique et alimentaire.
Et dans la deuxième partie, je crois, il a parlé du régime que doit suivre une femme enceinte.
Exactement, exactement.
Alors, avant de revenir dans votre question, je voulais dire à notre ami héritier que la psychologie, je n'ai pas beaucoup de notions sur la psychologie parce que ce sont des psychologues qui peuvent le dire mieux, mais au moins par rapport à la femme enceinte, je crois que notre rôle à la femme enceinte, c'est de dire d'abord à la femme enceinte que la grossesse n'est pas une pathologie. La grossesse n'est pas une pathologie, c'est un état physiologique normal de l'organe et que la femme est en train de remplir son rôle pour perpétrer l'espèce humaine. Parce que, alors, pendant cette période, il peut arriver, ce qui est vrai, est qu'il y a toujours des modifications physiologiques. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à l'état de la femme, hein,
oui,
la voix, le physique de la femme, hein, ouais, et tout cela. Et il y a, comme nous avons dit, le prestataire, pourquoi nous avons mis les normes dans lesquelles la femme doit visiter les services de premier contact de soins, n'est-ce pas, par rapport à son état. Et c'est dans ce paquet de services, il y a les CPN 1, CPN 2, CPN 3, CPN 4 avant l'accouchement, et dans tous ces paquets de services, il y a des interventions qu'on doit donner à la femme, des gestes qu'on doit donner à la femme, pour que sa psychologie soit tranquille et pour que sa grossesse puisse évoluer normalement. Vous verrez que là-bas, il y a ce que, par exemple, on dit que l'état de la grossesse chez la femme enceinte, c'est un état anémia. Donc, ça veut dire que la femme enceinte peut essayer de diminuer la masse sanguine par rapport à son état. Et les précautions à prendre, que vous devez supplier cette femme par rapport au fer folate et autres pour qu'il puisse maintenir les lits sanguins tout à fait normal par rapport à l'état de sa grossesse. Vous allez voir qu'il y a des interventions, comme la question que vous venez de poser tantôt, par rapport à la vaccination et autres. On doit le dire par rapport à cette femme-là, qui est enceinte, combien de séances de vaccins qu'elle doit recevoir, et beaucoup plus chez la femme enceinte, les vaccins que nous donnons beaucoup plus, c'est les vaccins en rapport avec les tétanos maternels, et que cette femme-là doit bénéficier pour une première grossesse minimum au moins 3, et que dans la grossesse qui pourra revenir après, il doit aller jusqu'à 5 pour que nous disions que cette femme-là est vraiment immunisée par rapport au tétanos s'il a bénéficié au moins dans les écarts de temps normal par rapport à la première séance qu'on doit prendre au premier contact. Un mois après, on prend le deuxième,
6 mois après, on prend le 1 mois après le deuxième, on prend le troisième, 6 mois après, on prend le quatrième, et une année après, on prend le cinquième. Et on dit à cette femme-là qu'elle est complètement immunisée par rapport au tétanos. Donc, c'est tout ce comportement-là que nous mettons dans le paquet de services de chaque CPN pour que la femme qui suit normalement toutes ces étapes, qui suit tous ces conseils-là, puisse en bénéficier. Alors, là-dedans, y compris même son régime alimentaire. Parce que le régime alimentaire par rapport à la femme fait toujours partie aussi de son état de santé. Parce qu'on demande à la femme enceinte de bien manger. Bien manger pour bien conserver la grossesse. Mais aussi, les médecins, les gynécologues ou les autres nutritionnistes peuvent lui dire manger, mais par exemple, pas de nourriture, pas trop de protéines pour aussi éviter, par exemple, les excédents de poids par rapport à l'enfant qui va naître.
Oui.
Donc, il y a tous les conseils-là qu'on les donne et nos services sont mieux spécialisés pour donner tous ces conseils pour que la grossesse de la femme puisse évoluer normalement bien et tous ceux qui ont été préparés par rapport à cela. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et dans l'évolution normale de la grossesse.
Nous retournons au standard, docteur, nous vous gardons en ligne pour donner la parole cette fois-ci à Dieudonné. Dieudonné, il nous appelle depuis la ville de Chicapa. Bonjour.
Bonjour, mon frère.
Allez droit au but. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette thématique que nous sommes en train d'aborder?
Oui, je voulais aussi demander à M. Guy, le docteur, s'il peut m'aider aussi. Ma femme est enceinte et c'est presque à terre. Vers le mois d'octobre, le 21, il pouvait déjà donner un bébé. Mais aujourd'hui, il est 2 semaines déjà passées. C'est pas qu'est-ce qu'il peut nous dire, nous les papas, les familles, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette optique? Il fallait y aller dans des traditions, chercher des petites racines, il fallait faire quoi? Voilà ce que je voulais lui demander.
Oui, Dieudonné, gardez l'écoute. Hein. Ça, c'est un cas spécifique. Il est temps pour les docteurs de réagir. Hein. Docteur, qu'est-ce que vous dites à M. Dieudonné de Chicapa? Son épouse devrait accoucher au mois d'octobre. Et là, il y a deux semaines passées, elle n'est pas encore délivrée. Elle voulait savoir parce qu'on lui suggère de recourir à des plantes pour des purges, enfin, que la femme accouche. Vous lui dites quoi?
Oui, merci beaucoup pour la question et merci à M. Dieudonné qui me pose la question, qui me suit. Je l'interdis directement cette pratique des plantes et autres. Et je l'encourage beaucoup plus d'aller vers le centre de santé ou l'hôpital le plus proche de sa maison ou là où la femme a eu à suivre des CPN normales pour qu'il pose le problème. Je vous aimerais que M. Dieudonné puisse comprendre que l'âge normal de la grossesse, souvent quand on calcule les termes de la grossesse, vous verrez que le personnel de santé ou le gynécologue, il vous met toujours 40 plus ou moins 2. Ça veut dire que quand on prend 40 moins 2, c'est jusqu'à 38e semaine de grossesse. Quand on prend 40 plus 2, une grossesse peut aller aussi, le terme peut aller jusqu'au 42e semaine. Je ne sais pas. Quand lui nous dit que le médecin et la femme devraient accoucher
en octobre,
en 2 semaines, les 2 semaines qui a dépassé, les termes qu'on avait mis là-bas, c'est les 38, c'est les 40, c'est les 42, mais je viens de lui donner les explications qu'il regarde entre 38 et 42, il a quel niveau, les 2 semaines lui donnent quel âge. Et si cela est ainsi qu'il y a eu un dépassement des termes, il va aller chez les personnels de soins, ils ont des instructions qui ont été données par rapport à cela, si vraiment la maturité de l'enfant est vraie, lui-même va se prononcer pour sortir. Dans les cas contraires, il y a des pratiques anodines qui ont été expliquées sans complication, dans lesquelles ils peuvent le faire pour demander à notre enfant de sortir dehors dans de bonnes conditions. Mais qu'il évite la pratique de dire « je vais aller prendre des plantes, je vais aller purger et autres » au risque de compliquer de plus en plus la situation. Voilà.
Dieudonné, vous êtes satisfait de votre préoccupation?
Oui, un peu, parce que je suis d'accord avec les docteurs. On avait fait l'échographie, on nous a même dit que l'enfant a tel sexe et tout ça. C'était prévu pour mon docteur de les essayer. On a dit que vous allez passer 2 semaines à cas de force majeure. C'est déjà passé, nous sommes déjà au mois de novembre. C'est comme ça qu'on pressait un peu. Il y a des inquiétudes. C'est comme ça que je voulais peut-être, docteur, pouvoir nous ramener avec tout ça. Nous sommes d'accord, nous sommes à côté des infirmiers, nous sommes au centre de santé après l'échographie. On nous a dit que non, au mois d'octobre, le 21. Mais on a tracé le 21 de décembre, aujourd'hui nous sommes au mois de novembre. Je ne sais pas tellement un peu convaincu, si tu peux nous aider d'une manière ou d'une autre avec tous les auditeurs qui suivent la radio.
Merci beaucoup Dieudonné. Docteur a dit dernier recours, c'est là où elle s'est fait consulter. Donc il faut retourner là-bas pour des recommandations adéquates par rapport à la délivrance, à l'accouchement de votre femme. Je pense que je vous ai bien résumé, docteur Guy, sur la préoccupation de Dieudonné.
Oh, ouais, pour la préoccupation de Dieudonné, c'est vraiment cela, et que Dieudonné retient ce que j'ai dit. Si le terme de l'échographie a donné une date quelconque, prends toujours cette date de terme, tu ajoutes plus ou moins 2 semaines. N'est-ce pas?
Oui.
Et le plus ou moins 2 semaines, ça veut dire qu'il pouvait accoucher 2 semaines avant cette date de terme qu'on avait donnée, tout comme il peut accoucher deux semaines après cette date de terme qu'on avait donnée. Et s'il est déjà dans les deux termes, les 2 semaines après le terme qu'on avait donné, c'est pourquoi je lui conseille de rentrer là-bas. Il y a certains signes qu'on va prendre par rapport à l'enfant qui montreront que l'enfant est dans l'état de la maturité et qu'il nécessite une autonomie de vie pour l'enfant pour qu'il puisse sortir. Donc, ceux-là, ils savent pertinemment bien, je crois qu'ils ont été bien formés, ils savent pertinemment bien que quand il y a le dépassement des termes, qu'est-ce qu'il faut faire, comment préparer la femme, comment préparer la famille et comment faire pour que cet enfant puisse venir en vie, tout en tenant compte de l'état de la mère, l'état de la mère et l'état de l'enfant. Beaucoup plus dire à la mère par rapport au bassin, par rapport, il est quand il part, ainsi de suite. Et aussi, demander le poids de l'enfant, s'il peut sortir, par exemple, par la voie basse, ou si c'est un poids, le terme, ce que nous appelons que le poids est beaucoup plus exorbitant, on peut voir quelle autre voie dans laquelle on peut signaler l'accouchement par rapport à cet enfant. Parce qu'il y a deux formes d'accouchement. Il y a l'accouchement par voie basse, tout comme accouchement par voie haute. Ce sont des accouchements normaux, selon le terme normal. La voie haute, on peut dire, c'est une césarienne qu'on va faire pour sortir l'enfant parce que dans le fait de dépassement des termes, l'enfant a un poids exorbitant, il ne sera pas passé par la filière maternelle. Il faut à ce moment-là qu'on le sorte par la voie haute. Donc, que papa héritier,
Dieudonné,
ne puisse pas paniquer, il a nos contacts avec vous, qu'il aille au niveau du centre de santé. Je crois que ce centre de santé, Chicap et autres, on a eu à former par rapport aux soins obstétricaux, néonatal, d'urgence et autres. Il peut toujours demander de conseils au loin pour qu'on guide dans la mesure du possible, comment ressortir cet enfant si vraiment ils sont rassurés qu'il y a dépassement des termes et il faut qu'on fasse ce qu'on peut faire si l'état de la mère est normal, la filière de la maman est normale et qu'on puisse décider de comment cet enfant peut venir dans sa vie autonome par rapport à cela. Voilà.
Docteur Guy, parlez-nous un peu de l'alcool et du tabac. Est-ce que c'est recommandé à une femme enceinte?
ça c'est une question qui revient souvent. Est-ce que d'abord, la question que je te pose, non seulement la femme enceinte, est-ce que le tabac a un rôle ou bien elle est nécessaire dans la vie normale d'un homme?
En principe, c'est moi vous qui pose des questions, je ne suis pas censé répondre
à
vos questions.
Voilà, je reviens, nous sommes en train de parler.
Oui.
Vous savez, si vous êtes chrétien, souvent on dit ceci. Quel est le caractéristique des gens qui n'aiment pas les autres et qui ne s'aiment pas sur eux-mêmes? Ce sont les fumeurs. Parce qu'on dit la cigarette. Eux-mêmes écrivent, ceux de la cigarette, ils écrivent, ils disent, il est préjudiciable
à la santé.
Nulle part on vous a écrit qu'elle est bénéfique à la santé. Ça veut dire quoi? Un fumeur, non seulement qu'il détruit son corps, et il détruit son environnement, ceux qui sont en train de fumer de manière passive.
Oui.
Alors, si quelqu'un en état normal, on lui défend la cigarette, vous pensez qu'il faut aller donner à une femme enceinte dans laquelle qui devient une femme qui est précieuse pour nous, dans laquelle il doit perpétuer l'espèce, nous allons lui donner la cigarette?
Donc, pour des femmes qui fument, lorsqu'elles tombent enceintes, elles doivent arrêter de fumer.
Je n'ai pas dit ça. J'ai dit chacun est libre de savoir ce qu'il doit faire. D'accord. Mais il doit voir dans ce qu'on ramène à nous, nous devons ramener à nous ce qui est bénéfique pour nous. Si la cigarette d'abord, en état normal, on dit qu'elle n'est pas bénéfique pour l'homme, et en forcerie pour la femme enceinte. Je crois que la décision, les goûts et les couleurs, c'est souvent un problème d'un chacun par rapport au choix.
Oui, mais à propos de l'alcool,
moi, je conseillerais de dire que je ne vois pas qu'est-ce qu'une femme enceinte va aller chercher à la cigarette.
Et concernant l'alcool, qu'est-ce que vous dites?
L'alcool, tout le monde peut prendre l'alcool. Et ce qui est déconseillé, c'est de prendre l'alcool de manière exagérée. Voilà. Mais je crois qu'un verre, une femme enceinte qui peut prendre son alcool, un verre, une bouteille, il peut le prendre. Et ça ne lui dérange pas. Ça ne va pas déranger l'évolution de sa grossesse. Ça ne va pas déranger l'évolution du fœtus qui est en lui ou le nouveau-né qui est en lui. Mais c'est de le prendre que ça ne devient pas une drogue pour elle. Et à ce moment-là, ça devient, c'est pas trop bien. Voilà.
Est-ce que le facteur âge, la prise de l'âge chez la femme peut aussi compliquer la grossesse?
Mais oui. D'abord, elle, non seulement elle la complique. Vous savez que même dans, nous le disons même, regardez, nous parlons de quatre trous, n'est-ce pas, de grossesse dans la prise même de la grossesse. Par rapport aux facteurs favorisant des décès maternels chez la femme enceinte, ou les facteurs qui favorisent les complications chez la femme enceinte. Et le quatrième trop que nous parlons des grossesses issues trop tard. Trop tard, c'est au-delà de 35 ans de vie. N'est-ce pas? Très souvent, ces femmes-là qui viennent prendre des grossesses, s'ils avaient déjà commencé à prendre ces grossesses un peu plus tôt, et que jusqu'à 35 ans, il peut encore prendre une grossesse, là, il n'y a pas de problème.
D'accord.
Mais si c'est une première grossesse qu'on vient commencer au-delà de 35 ans, très souvent, à l'âge avancé, ça devient, parfois, ça devient un peu des problèmes. Et vous verrez que très souvent, des grossesses comme ça que nous appelons des grossesses précieuses, où la surveillance doit être tout azimut, et dans lesquelles, d'ailleurs, je venais de te le dire tantôt, que par rapport aux différents virus de CPN, vous verrez que quand nous devons parler de visites focalisées, un CPN recentré, tu verras qu'une telle femme, peut-être à cet âge-là, on ne lui demanderait pas de garder les quatre visites traditionnelles et peut-être on peut augmenter un peu les contacts avec les prestataires de soins par rapport au facteur l'âge qui peut être un facteur limitant par rapport à l'évolution de la grossesse.
Retournons au standard pour donner la parole à Platini. Platini, il est à Mbandaka, bonjour. Platini Mbombo, vous êtes à Mbandaka, bonjour. Malheureusement, Platini n'est pas en ligne. On va tenter de lui rappeler. Hein, lui rappeler. Docteur, parlez-nous un peu du comportement adopté au dernier trimestre de la grossesse.
Ok. Merci pour la question. Vous savez que le dernier trimestre de la grossesse, c'est la période dans laquelle on s'apprête pour attendre l'enfant et pour que la maman aussi qui accouche puisse être en bonne santé. Très souvent, au niveau de la surveillance de la grossesse, aux différents services de consultation de grossesse, nous avons une intervention que nous appelons la préparation à l'accouchement. Et dans cette préparation à l'accouchement, c'est là où souvent nous demandons à la femme de faire des économies, d'impliquer son mari, de connaître les signes de danger, et ainsi de suite, de choisir la structure dans laquelle elle préfère aller accoucher, de même choisir, il peut même faire le choix du prestataire, par rapport à tous les prestataires, les sages-femmes ou les infirmiers accoucheuses et autres, qu'elle a choisi, dit, bon, je préfère dans cette structure par rapport à celle, et nous conseillons aussi pour dire, si par exemple vous êtes déconventionné et que votre structure est située plus loin de votre domicile et dans votre quartier, dans les milieux les plus proches, si par exemple que les douleurs vous surprend tard la nuit avec toutes les insécurités qui peuvent exister, allez dans telle structure les plus proches dans laquelle vous pouvez aller accoucher là-bas.
Oui.
Donc c'est une période délicate dans laquelle on entoure la femme et son environnement familial de tous les conseils possibles pour l'issue normale de sa grossesse.
Docteur, donc, je reviens à vous, s'il vous plaît, je reviens à vous. Hein. Il y a l'auditeur de Madaka qui est de nouveau en ligne, il s'appelle Platini, bonjour.
Platini, bonjour, bonjour l'invité.
Allez droit au but, on n'a plus assez de temps. Quelles sont les questions que vous voulez poser à notre invité?
Bon, la question que je vais poser à l'invité, bon, je ne serai pas trop kilométrique, c'est que... c'est que bien que j'ai eu l'émission un peu en cours de la route, j'ai eu le sujet en cours de la route. Mais ce que je vais poser à l'invité, qu'est-ce qui arrive souvent hein, dans les jeunes filles, dans les jeunes filles, dans le grossesse à l'âge un peu n'est pas encore atteint. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui pousse? Et puis pour lutter contre ça, qu'est-ce qu'il faut avoir comme la précaution à prendre? Voilà un peu.
Platini, est-ce que tu peux reformuler ta préoccupation? Je n'ai rien compris. Vous avez dit?
Ma préoccupation que je vais vous poser à l'invité, c'est de savoir qu'est-ce qui arrive chez nos jeunes filles à moins de 18 ans après
qui tombent enceintes.
La grossesse. Enceinte. Qu'est-ce qui arrive?
Okay.
Est-ce que c'est la faute liée au niveau de le plein parent ou bien la faute liée à au niveau de l'environnement, dans la communauté? Alors, pour lire ça, qu'est-ce que l'invité peut nous dire, nous, en tant que parents? Qu'est-ce que l'invité peut nous dire par rapport à ça?
Merci beaucoup, Platini. Je rappelle que c'est depuis la ville de Mandaka que vous appelez. Docteur Guy, la question de Platini me donne aussi l'inspiration. Donc, je la pose à deux sens. Moi, de mon côté, je dirais, est-ce qu'il y a des conséquences lorsqu'on tombe enceinte avant 18 ans?
Très bien. Merci beaucoup pour la question. Tantôt, tu m'avais dit que vous aviez pris contact avec Dr Bibi qui pouvait aussi intervenir, mais comme elle est indisposée, moi, je peux toujours parler.
D'accord.
Regarde, vous savez que l'état physique de la femme est parfois une condition sine qua non pour porter la grossesse à bon. Vous savez que chez les jeunes, les ados, les adolescents et les jeunes, mais au moins d'abord, je voudrais signaler que nous appelons, il y a ce que nous appelons l'âge de procréation. L'âge de procréation chez la femme. L'âge de procréation chez la femme, c'est l'âge qu'on dit la femme peut porter une grossesse quand elle atteint cet âge-là. N'est-ce pas?
Oui.
Et cet âge-là va pratiquement de 15 à 45 ans. Mais il arrive aussi qu'en deçà de 15 ans, des gens, des filles qui ont porté des grossesses. Ça peut être dit à des équipements climatiques, dit à la naissance et autres, où les ménages sont arrivés un peu plus tôt, un peu plus tôt par rapport à cette affaire. Mais l'âge de procréation chez la femme va de 15 à 45 ans.
D'accord.
Alors, cet enfant de 18 ans, c'est vrai que son physique, le physique d'un enfant normal, jeune fille et tout, c'est d'ailleurs quand vous demandez les gens des programmes nationaux de santé des adolescents, ils vous parleront, c'est environ entre 20 et 22 ans qu'on les appelle des jeunes. Mais elle n'est pas inscrite qu'à 18 ans déjà, elle est majeure et peut porter une grossesse. Il peut porter une grossesse, mais il n'est pas conseillé. Le mieux de les conseiller, c'est entre 20 et 22 ans. Là, au moins, elle est jeune, elle est un peu responsable avec mature par rapport à sa grossesse. Mais elle demande beaucoup plus les rôles des parents. Vous savez que l'âge, à partir de 15 à 18 ans, l'enfant souffre en lui par des poussées physiologiques. Et toutes ces poussées physiologiques, très souvent, dans notre milieu, dans nos familles, la famille qui devrait être le premier conseiller de l'enfant, la famille est beaucoup plus au niveau des coutumes, au niveau des us. Il prend honte
de communiquer, de dialoguer avec l'enfant.
Oui. Et qu'est-ce qui arrive? La famille laisse la place à la rue. C'est la rue qui va parler à l'enfant que non, si tu n'as jamais connu un garçon avant les 17 ans, les jours de ton accouchement, tu auras des difficultés. C'est là qu'ils vont dire à la fille, non, si tu n'as jamais fait, tu risques même que de ne pas mettre au monde. Et ainsi de suite, ils sont en train de donner des messages tortueux aux jeunes filles. Et l'organisme le pousse. l'organisme physiologiquement le pousse. Donc, si la famille ne prend pas ses responsabilités pour dire à l'enfant que voilà cet âge, d'ailleurs avant cet âge, dès que tu as vu tes ménages, tes ménages c'est ce que nous appelons les règles de, normalement.
Oui.
Que dès que tu as vu ça, maintenant tu es une femme et que tu es capable de porter une grossesse, si tu te mettais en contact sans protection avec un homme. Non seulement la crainte de la grossesse, en dehors de la grossesse, tu peux aussi avoir des maladies, tu peux aussi avoir des infections, tu peux aussi avoir ceci, tu peux aussi avoir cela. C'est la famille qui doit parler à l'enfant.
Mmh.
C'est la famille qui doit donner l'éducation sexuelle et l'éducation sanitaire qu'il faut à son enfant. À ce moment-là, l'enfant va grandir dans la crainte de l'éducation que l'a donnée la famille. Mais qu'est-ce que les autres, qu'est-ce qu'ils font? Parce que nous ne nous promenons pas avec nos enfants. Nous ne sommes pas omniprésents avec nos enfants. On peut donner les conseils qu'il faut, mais nous ne sommes pas sur le chemin de l'école avec eux.
Mmh.
Nous ne sommes pas sur le chemin de marcher avec eux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire en revanche? Dire à l'enfant que s'il arrivait que tu tombes, que tu ne peux pas résister, il faut lui dire les choses clairement. Voilà ce que tu peux faire. C'est à ce moment-là qu'intervient les méthodes contraceptives. Vous dites à l'enfant, tu peux accepter, tu pars, et par exemple, utiliser le condom. Parce que le condom vous donne une, on dit, il donne une double protection. C'est une méthode barrière. Il vous donne une double protection. Non seulement tu évites la grossesse, tu évites aussi les contacts avec les liquides de l'homme. À ce moment-là, s'il est infecté, si ces liquides sont infectés, l'enfant est quitte. Tu auras le plaisir que tu as cherché pour satisfaire ta physiologie, mais tu n'auras pas atteint la grossesse, tu n'auras pas les infections qui se trouvent chez l'homme vis-à-vis de toi.
Donc
c'est comme ça que la famille doit se comporter pour le dire aux enfants. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est à notre niveau, c'est un tabou pour parler à nos enfants.
Oui, docteur, nous comprenons.
Jamais tu verras un papa parler à sa fille des choses clairement comme ça, même parfois dans les familles des médecins, hein, ne vous en faites pas, hein, ceux qui ont des connaissances. Hein.
Ouais.
Hein, très souvent, on dira, et vous savez, notre monde aujourd'hui, parfois quand un parent comme ça parle à son enfant, même sa mère devient problématique. Ah, tu, yo, vous levez la main, qu'est-ce qui se passe? On commence à dire, yo. Des histoires comme ça qui se passent dans notre société et autres. Donc si nous ne prenons pas les choses à bras le corps par rapport à l'éducation de nos enfants, l'éducation sexuelle de nos enfants, les conséquences, c'est ce que notre ami, comment il s'appelle encore, de Mbandaka,
Platini.
Notre ami Platini va souffrir et est en train de décrier maintenant.
Donc,
voilà ce que je peux donner comme une réponse à ce niveau. Donc, nous donnons les conseils sexuels, nous donnons à l'enfant les conseils par rapport à des méthodes de se protéger, des méthodes contraceptives. Et je vous dis que pour rapport à la grossesse, il y a plusieurs méthodes. Hein, il y a ce qu'ils appellent 50 heures, tu peux mettre quelque chose dans le corps, tu peux prendre des méthodes hormonales, des comprimés. Ça, c'est pour éviter la grossesse. Mais pour éviter et la grossesse et les infections, ce qui est mieux, c'est de prendre des méthodes barrières. Et la méthode barrière la mieux conseillée, c'est l'utilisation des préservatifs.
Merci
à ce
beaucoup.
Moment-là,
oui.
L'enfant a le plaisir qu'il cherche, mais au moins il n'est pas en contact avec le liquide de l'homme et ça lui protège. Elle va éviter la grossesse, il va éviter aussi les infections qui peuvent venir par rapport à lui. Voilà.
Docteur, le temps imparti à cette émission est terminé. On a consommé toutes les minutes. Merci d'avoir été avec nous. Hein. Nous rappelons que vous êtes spécialiste à la maternité à moindre risque, docteur Guimoukoumpouri. Merci d'avoir été avec nous pour partager votre expérience avec les auditeurs à la prochaine occasion.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.